don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
Kapron ki log chalenge baat kar rahe hain.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Rocchini, Hélène Paquet, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en ondes ce matin par Nicolas Delmas. On va poursuivre notre série consacrée aux animaux, plaidoyer pour un rugissement. Aujourd'hui, braconnage, trafic, la défense des défenses.
Si mes informations sont bonnes, le coût actuel d'une corne de rhinocéros au Vietnam est de 50 à 60 000 dollars.
J'exhorte la communauté internationale à se mobiliser davantage contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes.
C'est notre patrimoine et il doit être défendu. Il est clair que si nous ne faisions pas attention, nous aurions terminé un jour à ce que nous soyons obligés d'aller à l'étranger, dans les eaux, pour voir des animaux qui viennent de chez nous.
Je pense que nous pourrons sauver ces éléphants. Nous ne pouvons les sauver que par une forte coopération entre le Tchad et le Cameroun. Des actions communes.
Depuis quelques années, le braconnage de rhinocéros et d'éléphants a explosé un peu partout en Afrique. Environ 50 000 éléphants seraient tués chaque année sur le continent, sur une population restante de 450 000. Dopés par une très forte demande, notamment venue d'Asie et surtout de Chine, les trafics d'ivoire sont devenus extrêmement importants. Pour ce qui est de son origine, une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Washington montrait que la majorité des défenses saisies provient de deux régions. Une zone protégée étendue entre le Cameroun, le Congo et le Gabon, et l'Afrique de l'Est, en particulier la Tanzanie. Et la plupart des défenses ayant transité par le port de Mombasa au Kenya, véritable plaque tournante. Le braconnage et le commerce d'espèces protégées sont devenus la quatrième activité criminelle après le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. On parle d'une activité représentant près de 20 milliards de dollars, au moins, dont plus d'un dixième pour l'ivoire seulement. Alors comment sont organisés ces trafics? Quels sont les efforts des pays pour le combattre et pour quels résultats? Quelles sont les lois aussi encadrant le commerce des animaux? Sont-elles satisfaisantes? Depuis les années 70, on a un texte qui prévoit la protection des espèces. En effet, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacée d'extinction. Un accord donc signé en 1973 et dont le but est de veiller à ce que le commerce international ne menace pas la survie des espèces. Mais si le commerce de l'ivoire a été globalement interdit depuis 1989, des exceptions et autres dérogations demeurent. Alors comment le comprendre? Et puis quels sont leurs effets, bien sûr, sur le trafic illégal? On ira du côté de la Chine pour comprendre comment s'organise ce trafic avec Alban Lalou, qu'on retrouvera tout à l'heure. Et puis nous retrouverons également le plus gros éleveur de rhinocéros d'Afrique du Sud, John Young, qui dénonce les effets pervers de l'interdiction, lui, et qui milite pour sa légalisation, le meilleur moyen, selon lui en tout cas, de diminuer le braconnage. Notre invité ce matin en plateau, Céline Sissler, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice France de l'IFAO, c'est comme ça qu'on prononce?
IFAO,
l'International Fund for Animal Welfare, c'est une ONG, un organisme consultatif d'ailleurs auprès des Nations Unies, donc on pourra évoquer justement comment s'organisent les discussions, les négociations au sein des instances internationales. D'abord peut-être un premier mot sur un constat un peu général. On parle de 30 000 à 50 000 éléphants tués chaque année pour récupérer l'ivoire. À ce rythme, on se dit que les quelques 450 000 éléphants vivants aujourd'hui en liberté auront disparu d'ici quoi, une dizaine d'années. Ça fait longtemps qu'on s'inquiète bien sûr pour l'avenir des pachydermes. Mais là, la situation semble plus préoccupante que jamais. Est-ce que c'est votre constat aussi ou est-ce que vous êtes plus nuancé?
Alors non, c'est effectivement le constat que nous faisons et nous tirons la sonnette d'alarme sur cette pression de braconnage et le risque de disparition des éléphants depuis près de 10 ans. Mais ce que l'on a constaté, c'est que nous sommes passés d'un braconnage opportuniste à une véritable industrie orchestrée par des réseaux criminels. Et par conséquent, le déclin des éléphants est aujourd'hui amorcé à l'échelle du continent.
Alors qu'est-ce qui a créé cette rupture? Parce qu'effectivement, le braconnage a toujours existé et on peut penser qu'il existera toujours. Difficile de l'éradiquer, mais qu'est-ce qui a fait la rupture?
Alors, ce qui a fait cette rupture, c'est deux choses. Tout d'abord, une demande émergente en Asie et plus particulièrement en Chine, avec une classe moyenne qui, d'un seul coup, a eu un pouvoir d'achat plus important. Et il faut savoir que en Asie et notamment en Chine, détenir de l'ivoire permet d'exprimer un statut social. C'est une marque de prestige. Et c'est une marque de prestige pas seulement pour les personnes qui détiennent cet ivoire, c'est aussi une marque de prestige pour les personnes qui sont en mesure de l'offrir. Donc il y a une demande importante qui s'est amplifiée, mais cette demande s'est mondialisée. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que Internet a permis aujourd'hui de mettre en relation des acheteurs et des consommateurs et des vendeurs. Et donc c'est aussi une menace qu'il faut considérer.
En 2012, il y avait eu environ 600 éléphants qui avaient été abattus en quelques mois à la frontière nord du Cameroun, notamment dans le parc national de Boubandjida, dans la province nord du Cameroun. Vous aviez eu tristement l'occasion de constater les dégâts sur place. On va essayer de comprendre les choses. Pourquoi ce massacre? Qui en sont les responsables? Et est-ce que peut-être la situation s'est améliorée depuis?
Alors, pourquoi ce massacre? Eh bien, très simplement, pour répondre à une demande en Asie, ce que nous avons évoqué avant, parce qu'il existe un marché légal en Asie, et notamment en Chine ou en Thaïlande. Donc, ensuite, les personnes qui ont orchestré ce braconnage étaient les Janjaweed, donc des cavaliers lourdement armés venus du Soudan et qui étaient déterminés à prélever le plus d'ivoire possible. Donc, ils ont réussi à traverser un certain nombre de pays, la Centrafrique, le Tchad, pour arriver donc dans le nord Cameroun, et cela sans être inquiété.
Ça, c'est une nouveauté, parce que le plus souvent, avant, c'était vraiment des locaux, finalement, alors qu'ils profitaient évidemment du business qu'il y a derrière. Mais
voilà, c'était opportuniste.
Là, c'est pas le cas, là, on a traversé des frontières.
Voilà, on a traversé des frontières, et surtout, on les a traversées lourdement armées, donc avec des grenades, avec des fusils d'assaut, puisque dans le cadre du massacre de Boubandjida, les éléphants ont été tués par le biais de Kalachnikov. Donc on est sur une dimension qui est très différente de ce qu'on connaissait il y a quelques années.
La situation s'est améliorée depuis ?
Alors, dire que la situation s'est améliorée serait un mensonge. On constate que il est très difficile en ce moment de contenir la pression de braconnage. Néanmoins, il y a une prise de conscience, il y a une dynamique internationale, notamment politique, et c'est ça qui est important. Maintenant, de cette prise de conscience, il faut passer de manière urgente à une mise en application de stratégies efficaces, à la mise en place de mesures qui vont consister non seulement à renforcer les capacités des éco-gardes dans les pays d'approvisionnement ou les pays sources, mais aussi à lutter contre les réseaux de trafiquants, les démanteler et à sensibiliser les consommateurs en Asie.
Oui, renforcer les moyens des éco-gardes, parce que bien sûr, quand on a affaire à des groupes armés, il faut avoir des moyens à la hauteur justement pour s'opposer.
Ils ont intercepté notre véhicule sur la piste, puis moi je suis descendu du véhicule pour dialoguer avec eux. Et là, ils nous ont expliqué qu'ils se retiraient vers le Tchad. Et de visu, les chevaux qui étaient là portaient donc des sacs blancs sur lesquels on laissait deviner des défenses d'éléphants. L'armement qu'ils avaient, principalement des Kalachnikovs en individuel, et il y avait mortier de 80, et il y avait deux mitrailleuses M80. On comprend qu'on a affaire à des gens qui ont une expérience soit d'une guerre, soit d'une rébellion, soit de quelque chose de ce type.
C'est dangereux, mais qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de faire avec, puisqu'on a de l'amour dans ce qu'on veut faire. Quand vous avez de l'amour dans ce que vous voulez faire, vous ne voyez plus ce qui est dangereux, vous prenez le risque. Et on prend le risque parce qu'on aime le métier. Ça va être très difficile, mais on fait avec parce que c'est un choix. On a prêté seulement pour ça.
Kalachnikov, mitrailleuse, c'est une Sisler. Clairement, aujourd'hui, la protection des éléphants, elle nécessite des moyens quasiment militaires, en réalité.
Alors effectivement, on est dans un contexte de guerre et il n'y a plus de difficulté à le dire quand on entend justement l'armement qui est utilisé par les braconniers, ce qui met les éco-gardes dans une situation de combat complètement disproportionnée puisque eux sont sous-équipés, sous-entraînés. Il faut comprendre qu'à la base, ils ont été formés pour patrouiller et protéger des écosystèmes, enfin plus particulièrement des aires protégées d'incursions humaines. Ils ne sont pas là pour tuer des hommes, pour les appréhender, pour les sensibiliser à la protection des espaces. Aujourd'hui, ils n'ont même plus le temps de faire cela puisque c'est eux qui se trouvent en première ligne et qui sont tués par ces braconniers. Donc en plus, on a changé d'échelle à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que le braconnage, évidemment, tue des éléphants, mais tue aussi des hommes, donc des éco-gardes, des soldats et des braconniers, et ça laisse souvent leur famille absolument sans ressources.
Est-ce qu'on a augmenté justement les moyens de ces éco-gardes?
Alors,
et qui finance tout ça?
Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que dans la plupart des cas, ce sont les ONG qui appuient ces éléments, qui renforcent les capacités. C'est ce que fait AIFO dans de nombreux pays en travaillant avec les éco-gardes, mais aussi avec les agences de lutte contre la fraude, hein, les forces de l'ordre, parce qu'il faut les sensibiliser. Et puis, il faut leur donner des moyens d'investigation supplémentaires. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les ONG ne sont pas habilités à fournir ou à équiper les éco-gardes en armes. Ce n'est pas notre rôle. Donc nous, on va les équiper, on va les former, évidemment, à une lutte plus militarisée, donc, et surtout à se protéger, hein, à protéger leur vie. Mais il faut savoir que voilà, c'est compliqué et ce sont aux États.
Mais ça veut dire qu'il faut quand même associer cette action-là à une action publique pour qu'on ait aussi sur place des militaires payés par l'État.
Voilà, mais bien sûr, et c'est le rôle aussi des ONG de sensibiliser les décideurs politiques au plus haut niveau et de les amener à considérer la lutte contre le braconnage comme une priorité.
Et ça fonctionne, il y a des résultats, il y a des États qui vous entendent?
Il y a des États dans lesquels ça fonctionne, et je prendrai l'exemple du Kenya qui pour la première année a observé une diminution de la pression de braconnage sur ses éléphants et sur ses rhinocéros. Donc cela prouve que quand on agit sur le terrain, quand on met les moyens, il y a des résultats.
Oui, d'ailleurs le Kenya qui en mars dernier avait procédé à la destruction d'un énorme stock d'ivoire, je crois 15 tonnes avaient été brûlées, ce qui montre aussi peut-être cette volonté politique, voilà, de se placer comme ça à l'avant-garde de cette lutte.
Tout à fait, ouais. Tout à fait, et qui va détruire dans 3 jours un nouveau stock d'ivoire, et là c'est la quasi-totalité des stocks gouvernementaux, à savoir 105 tonnes. Cela ne s'est jamais vu auparavant, mais c'est l'objectif est d'envoyer un signal extrêmement clair à la communauté internationale et évidemment aux trafiquants, et de leur expliquer qu'aujourd'hui on est dans un contexte de tolérance zéro à l'égard du braconnage et de la contrebande des produits d'espèces protégées.
L'une des raisons pour lesquelles la politique du Kenya fonctionne, c'est aussi parce que le Kenya a parfaitement compris que pour protéger les éléphants, il fallait impliquer les communautés locales.
Tout à fait. Et ça, c'est une approche nouvelle. Et AIFO, justement, œuvre pour que la voix des communautés locales soit entendue, pour qu'elles participent à la gestion des aires protégées et à la protection des espèces, notamment de l'éléphant. Et il est important de comprendre que dans de nombreux pays, les communautés locales se voient plutôt comme des victimes de cette cohabitation avec les espèces sauvages et notamment l'éléphant, parce que l'éléphant détruit leur culture, les met en situation de subsistance difficile, voire de famine dans certaines régions. Donc il faut trouver un moyen de compenser le coût de cette cohabitation et de les amener à coexister plus pacifiquement. Et d'ailleurs, à cet effet, c'est vrai qu'avec 2 autres associations qui sont Aweli et des éléphants et des hommes, AIFO a réfléchi à la mise en place, à la création d'un observatoire qui servirait à valoriser l'éléphant sauvage vivant en faisant la promotion de l'écotourisme non seulement international, mais aussi du tourisme nationale. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que,
ce qui est beaucoup développé, pardon, vous coupez plutôt en Afrique de l'Est et peut-être un peu moins en Afrique francophone.
Voilà, c'est moins développé. Mais encore une fois, le tourisme national est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas dans les mœurs, ce n'est pas dans les habitudes d'aller à la rencontre des éléphants. D'ailleurs, dans de nombreux pays dans lesquels j'ai été, les communautés sont effrayées par les éléphants. Ils en ont peur, même des éco-gardes qui n'ont jamais été confrontés à une rencontre avec l'éléphant, c'est quand même un animal gigantesque, en ont peur.
Mmh. Oui, il fascine autant qu'il effraie. Justement, pour impliquer ces communautés, il y a des initiatives qui sont prises ça et là, c'est tout simplement d'aller recruter justement des éco-gardes au sein de ces communautés. Ça.
Oui,
l'initiative qu'on voit se répandre beaucoup.
C'est en train de se répandre, donc c'est la façon de les impliquer et ce sont des formations particulières basées sur une motivation aussi de ces éco-gardes en herbe et c'est effectivement ce qui amènera les communautés locales à s'intéresser à leur biodiversité, à la préserver et donc à sécuriser aussi les endroits où elles vivent.
Et d'ailleurs, on voit même certains anciens braconniers.
Des braconniers repentis.
Repentis
voilà,
et
tout à fait.
Rentrés dans le rang des éco-gardes. Mais ce qui d'ailleurs pose une vraie question, parce qu'il faut pouvoir les payer plus que ce qu'ils ne gagnaient quand ils étaient des braconniers. Là, il y a un enjeu économique.
Alors, plus, pas forcément, mais
au moins
autant. Régulier.
Ouais,
régulier, ouais. Voilà, ouais. Parce que la problématique d'un braconnier en général, c'est que oui, il va percevoir une source de revenus à un moment donné parce que il a braconné un éléphant, mais après, peut-être que pendant plusieurs mois, il n'aura plus cette source de revenus. Donc tout l'intérêt pour lui, c'est de pouvoir subvenir aussi aux besoins de sa famille sur la durée et d'avoir un salaire régulier.
Elle mesure 1,66 m et pèse 15,1 kg. C'est pratiquement la pointe la plus lourde. Malheureusement, les braconniers dans leur destruction arrivent à tuer des éléphantaux dont la pointe peut peser 200 grammes seulement, mesurant 27 cm. Il n'en restera plus rien. Il n'en restera plus rien parce que ceux qui devaient grandir et mettre bas plus tard, ils les ont déjà détruits. Qu'est-ce qui restera de la nature finalement?
Voilà, qu'est-ce qui restera de la nature? Voilà cette interrogation pour cette éco-garde du parc national Haut-Zala-Kokwa en RDC, que vous connaissez, le plus vieux parc du pays. Donc là aussi, bien sûr, ce braconnage a beaucoup augmenté ces dernières années. Je voudrais qu'on parle un instant du Mali, Céline Sisler, parce que sur l'année 2015, on a presque un quart des éléphants qui ont été tués et qui ont alimenté, là encore, le trafic d'ivoire. Et visiblement, dans ce cas précis, la recrudescence du braconnage, elle est liée aussi aux activités djihadistes dans la région.
Alors oui, ça c'est le cas particulier du Mali, où on voit que depuis quelques années, à partir du moment où des groupuscules affiliés à Al-Qaïda, donc on peut parler d'ACMI, mais il y a aussi des groupes ethniques rebelles qui sont dans la zone, ces derniers ont semé le chaos et doivent en permanence trouver des sources de revenus pour payer leurs recrues, pour payer l'alimentation, payer les munitions, payer les armes. Et on constate depuis 2 ans que la population des éléphants de la zone du Gourma, donc une zone au nord du pays, très étendue, est devenue la cible de ces groupuscules rebelles.
Donc l'ivoire sert à financer les groupes terroristes?
Alors l'ivoire contribue à financer certains groupes terroristes régionaux.
Oui, on a vu ça aussi du côté de l'Ouganda, je crois, mais aussi du côté des Chebab somaliens.
Tout à fait, ou surtout l'armée de résistance du Seigneur en Centrafrique et en Ouganda ou en RDC, dont on voit bien qu'il y a une rémunération sur la base de l'ivoire, du trafic d'ivoire.
Ça, c'est quand même un changement très important, Céline Sisler, et en particulier pour les États. Si la question de l'ivoire, de la défense, des pachydermes devient aussi une question sécuritaire, puisque le trafic participe à l'enrichissement justement de ces groupes djihadistes, ça veut dire que ça, c'est une vraie rupture pour les États. Est-ce que vous avez le sentiment que justement, ça a modifié peut-être la posture, la perception de certains États vis-à-vis de cette question-là ?
Alors, c'est clairement ce qui a modifié la posture des États et qui a motivé cette dynamique internationale au niveau des décideurs. Barack Obama a été le premier à reconnaître l'enjeu sécuritaire que soulevait le trafic des espèces sauvages et notamment le trafic d'ivoire. Et ensuite, un certain nombre de pays, dont la France, mais bien d'autres, ont reconnu qu'aujourd'hui, le trafic des espèces sauvages était une menace et une infraction extrêmement grave qui mettait en péril non seulement des espèces, mais aussi les gouvernances en place dans les pays où ce braconnage et le trafic ont lieu.
Oui, François Hollande avait fait une déclaration justement en ce sens au début de son mandat et avec un plan d'action à la clé.
Exactement. Fin 2013, en décembre 2013, ce dernier a lancé les grandes lignes d'un plan d'action national, mais bien plus vaste que simplement un engagement français. Il y avait aussi des lignes directrices au niveau européen et au niveau international pour lutter contre ce trafic qui, par essence, est transnational. C'est-à-dire que aucun pays ne peut lutter seul contre cette criminalité.
Avec des résultats ?
Les résultats sont timides. Ce qui est motivant actuellement, c'est de voir que les différents États ont compris qu'ils devaient travailler main dans la main, que certaines agences de lutte contre la fraude ont elles aussi compris qu'elles devaient coopérer. Et donc, on voit de plus en plus des tables rondes se tenir et des discussions sérieuses se tenir entre les pays d'approvisionnement, les pays de transit et les pays de destination. Ça veut dire que de plus en plus, la Chine est à la table des négociations et met en place des mesures pour lutter.
Alors justement, ces discussions internationales, Céline Sisler, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dont je parlais tout à l'heure dans mon introduction, qui est cet accord signé en mars 73, qui garantit que le commerce international des espèces inscrites dans les annexes, ainsi que les parties et produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. Alors on pourrait penser que cette convention dite de Washington, parce qu'elle a été signée à Washington, elle protège très bien les éléphants et autres rhinocéros, qu'elle interdit le commerce de l'ivoire, ce qui avait été fait en 1989, qui d'ailleurs avait eu des effets assez directs sur le braconnage, qui avait considérablement baissé, mais c'est pas aussi simple que ça. 2008, la CITES a autorisé la vente d'ivoire, en l'occurrence pour le Japon et pour la Chine, qui ont eu l'autorisation d'en acheter à plusieurs pays d'Afrique australe. Pour quelle raison ?
Alors, je pense qu'il faut recadrer ce qu'est la CITES. La CITES n'est pas une convention qui vise à protéger les espèces. C'est d'abord une convention qui est perçue, en tout cas par les États, comme une convention qui doit encadrer le commerce de ces espèces. Donc c'est avant tout à des fins commerciales. Et le problème est là, c'est que on est sur du commerce et non pas sur de la protection en tant que telle. Et c'est la raison pour laquelle deux ventes que l'on qualifie d'exceptionnelles et très encadrées ont eu lieu, de ventes d'ivoire, ont eu lieu une première en 1999 à destination du Japon, puis après celle dont vous avez parlé en 2008 à destination du Japon et de la Chine. Eh bien, ces ventes exceptionnelles, notamment celle de 2008, avaient pour objectif, bon, non seulement de permettre aux pays d'Afrique australe d'écouler leur stock d'ivoire vers des partenaires commerciaux qui en faisaient la demande, à savoir la Chine et le Japon. Mais ce qui s'est passé, c'est
enfin,
que...
On peut faire des demandes sans qu'elles soient pour autant acceptées.
Tout à fait.
Qu'est-ce
tout à fait.
Qu'est-ce
mais
qui fait que...
L'expérimentation dans le cadre de cette vente, c'était à terme de réduire le braconnage, de mener à un effondrement des prix de l'ivoire sur le marché asiatique et donc quelque part de lutter contre les réseaux criminels.
Sauf que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas eu cet effet-là.
Non, ça n'a absolument pas fonctionné, c'est absolument tout le contraire qu'on a observé.
Le prix de l'ivoire a grimpé.
Le prix de l'ivoire a grimpé, la pression de braconnage s'est intensifiée et malheureusement le fait qu'il y ait un marché existant d'ivoire en Chine avec l'émergence d'une classe moyenne, on a vu qu'il y avait aussi un élargissement de ce marché en Asie.
On va parler de la Chine dans quelques instants avec Alban Lalou qui est avec nous par téléphone, qu'on retrouve dans quelques instants. Mais je voudrais comprendre au sein de la CITES, au sein des parties de la CITES, comment on prend des décisions.
Alors,
et qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est seulement la question du commerce des espèces ou est-ce qu'il y a d'autres choses, beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu? Est-ce qu'on fait de la géopolitique comme on en fait ailleurs pour d'autres questions?
Évidemment, on fait évidemment de la géopolitique. Et ça dans toutes les conventions. Oui, c'est une convention qui doit se baser sur des critères biologiques et c'est la raison pour laquelle AIFO demande assez fréquemment à ce qu'il y ait le principe de précaution qui soit appliqué dans le cadre de ces critères biologiques lorsqu'on n'a pas les éléments. En revanche, vous avez le lobby des commerçants derrière qui est un lobby extrêmement puissant qui demande à ce qu'il y ait une commercialisation encadrée, certes, par des permis. Néanmoins, aucun pays n'a les moyens de contrôler véritablement le commerce légal.
Braconnage, trafic, la défense des défenses. On est avec Céline Sissler, la directrice France de l'AIFA. Je prononce très mal,
L'AIFO,
voilà.
Le Fonds international pour la protection des animaux.
Et voilà, c'est quand même mieux dit quand c'est vous qui le dites.
France Culture, Culture Monde, par Florian Delorme.
Et pour comprendre donc bien sûr ce trafic d'ivoire, il faut s'intéresser à l'Asie, on l'a dit, Céline Sissler, et peut-être en particulier à la Chine, qui est l'un des pays où la demande est la plus forte, bien plus forte que l'offre évidemment, ce qui évidemment entraîne ce trafic dont on parle. Et pour comprendre les motivations des Asiatiques qui achètent de l'ivoire, eh bien on évoque souvent les vertus supposément thérapeutiques, ce qui est totalement réfuté bien sûr par toutes les études scientifiques, pourtant ces croyances perdurent.
De plus en plus de gens sont malades du cancer. Et il paraît que la corne de rhinocéros peut aider à le guérir. Alors forcément, beaucoup de gens réclament. Et ils sont prêts à payer le prix fort.
Une légende s'est répandue à Hanoï et à Ho Chi Minh-ville. Un général, ou selon les versions, un grand homme politique, on parle parfois d'un ancien premier ministre, aurait guéri du cancer grâce à de la corne de rhinocéros.
Beaucoup de gens essaient de se procurer de la corne de rhinocéros pour sauver leur propre vie ou celle d'un proche, quitte à payer un prix exorbitant. Si mes informations sont bonnes, le coût actuel d'une corne de rhinocéros au Vietnam est de 50 à 60 000 dollars, soit 3 à 4 fois le prix de la voiture qui est garée là-bas. Ils croient que ça peut guérir certaines maladies ou désintoxiquer le corps quand on a trop bu, ou encore améliorer la santé de façon générale.
Voilà, extrait de ce documentaire Trafic d'ivoire, La guerre perdue, qui avait été diffusé sur Arte l'année dernière, un documentaire de Jacob Knesser. On va retrouver une nouvelle invitée, Alban Lalou, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes titulaire d'un master de criminologie et de philosophie chinoise. Vous êtes doctorante en prévention criminelle à l'Université centrale de police de Taïwan. Alors c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les raisons pour lesquelles les Asiatiques sont particulièrement friands de l'ivoire, ses vertus supposément thérapeutiques, et je le disais, ce qui est évidemment pas du tout avéré par les études scientifiques, mais aussi, peut-être surtout, et c'est ça sur lequel il faudrait insister, l'ivoire, c'est d'abord une matière noble, et ça depuis très longtemps, c'est un matériau dans lequel les artistes chinois sculptent depuis très longtemps. D'ailleurs, il existe quantité d'ateliers, d'artistes qui continuent de transformer des cornes d'ivoire en objets divers. L'ivoire, en fait, il est culturellement et historiquement très valorisé en Asie, Alban Lalou.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je voudrais un peu reprendre ce qui a été dit sur l'émission d'Arte, là, où il y a eu un énorme mélange fait entre l'ivoire et la corne.
Oui.
C'est-à-dire que la Chine, dans ses trafics des animaux d'annexe 1, hein, donc les animaux qui sont en voie de disparition, donc on y comprend les tigres, les éléphants et autres, la Chine fonctionne comme tous les peuples, c'est-à-dire qu'il y a quatre raisons principales qui amènent à cette consommation d'animaux. La première, c'est la médecine chinoise. On est d'accord avec les cornes de rhinocéros. Nous, on a à peu près la même chose avec nos laboratoires qui continuent à faire venir des gorilles et des chimpanzés de l'état naturel pour faire des expériences. On a à peu près le même processus. un petit peu plus cadré seulement. Mmh. Bon, la deuxième chose, en Chine, ça va être les animaux de compagnie. Il faut voir le nombre de perroquets yo-yo qu'on a qui meurent en chemin pour être achetés là-bas et ils ne survivent que 2 ou 3 ans. Le quotidien aussi, mais on l'a aussi, et l'art. Mmh. Voilà. Et quand on parle d'éléphant, on parle d'art. Quand on parle de rhinocéros, on parle de médecine.
Oui. Alban Lalou, en Chine, le marché domestique reste autorisé pour les produits importés avant 1981, date à laquelle la Chine a intégré la CITES, ainsi que pour ceux acquis à l'occasion de la vente unique réalisée en 2008 dont je parlais tout à l'heure. Mais récemment, parlons un peu d'actualité, la Chine a étendu son interdiction d'importation d'ivoire aux produits mis en circulation avant 1975. Est-ce qu'il faut voir là la preuve, le signe que la Chine se dirige petit à petit vers une interdiction totale du commerce d'ivoire, y compris voilà, le commerce domestique, qui est celui qui est autorisé encore, Alban Lalou.
Oui, bien sûr. Alors là, je pense qu'on revient un petit peu sur l'intervention que vous aviez avant moi, avec la dame, c'est-à-dire qu'on est sur un problème complètement géopolitique. Hein, parce que la lutte n'est pas faite très... La lutte est faite. Elle est faite en Chine. Hein, je veux dire, ils travaillent dessus particulièrement sur les éléphants, les tigres et autres. Mais il va falloir distinguer est-ce qu'ils font ce qu'il faut et est-ce qu'ils le font comme il le faut. Oui, ils le font comme il le faut si on parle de prévention. Ils sont vraiment en train de mettre en place des politiques de prévention. C'est indéniable. Et apparemment, c'est pour être un long terme. Maintenant, est-ce qu'ils font ce qu'il faut en prévention criminelle? C'est un autre sujet.
Ben non, justement, c'est notre sujet ce matin. Qu'est-ce qu'il faut très concrètement et qu'est-ce qui fonctionne et où est-ce que justement ça pêche?
Alors, le problème, quand on veut mettre en place des préventions criminelles ou des luttes contre le crime, c'est qu'il faut être très clair sur quelle situation on a. Quel type de situation criminelle on a quand on parle de l'ivoire en Chine? Est-ce qu'on a une situation... On a 3 types de situations avec des degrés différents. Est-ce que c'est une situation préoccupante? Est-ce que c'est une situation plus ou moins grave? Ou est-ce que c'est une situation d'urgence? Ce qu'on appelle une situation d'urgence, c'est une situation où il n'y aura plus aucun recours, une fois fini, ni juridique, ni scientifique. Quand on parle des trafics de drogue ou autre, on parle de situations très graves. Mais là, on parle d'espèces qui, dans 10 ans, n'existeront plus.
D'accord, mais il y a très clairement, de la part de Pékin, le désir de lutter contre ce commerce de l'ivoire, peut-être aussi et avant tout, parce que c'est une activité très prisée par les réseaux criminels chinois, je ne me trompe pas.
Des raisons, mais je ne pense pas que ça soit la raison principale. Je pense que, pour répondre d'abord à votre question, je pense qu'ils sont en train de gérer la situation comme une situation grave, alors qu'on n'est pas sur une situation d'urgence. Donc on est à des niveaux quand même différents, mais ce n'est pas les seuls à faire ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus qu'un problème de réseau criminel qui est devenu incontrôlable, en effet. L'éléphant, ce n'est pas rien. L'éléphant, c'est quand même un emblème en Afrique. Les enfants du Sénégal ou du Mali qui n'ont jamais vu d'éléphant vont vous parler d'éléphant comme le symbole de la force. La personne qui, dans 10 ans, le pays qui, dans 10 ans, va porter l'étiquette à éradiquer les éléphants d'Afrique, c'est un pays qui, au niveau géopolitique, va en payer le prix.
Alban Lalou.
Je pense que la Chine s'en rend compte.
D'accord. Alban Lalou, vous êtes, je le disais, doctorante en prévention criminelle à l'Université centrale de police de Taïwan. Essayons de comprendre un peu les choses. Vous dites qu'il y a 2 mécanismes qui sont très importants pour comprendre le fonctionnement du trafic et la complexité, justement, pour lutter contre ce trafic. C'est d'abord celui des vases communicants et le principe des ponts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça en quelques mots?
Alors, le principe des ponts, en fait, je l'ai découvert très bêtement en travaillant pour la GABA, qui est la Banque mondiale, sur le trafic d'ivoire par rapport au blanchiment d'argent. Et je me suis aperçu qu'en réalité, beaucoup d'ivoires qui sont trafiqués dans le monde le sont par un blanchiment de marchandises et pas d'argent. Je vais vous expliquer. La CITES, elle gère les ventes. Mais elle gère les ventes, elle les gère de façon un petit peu, parfois, on va dire, laxiste. Pourquoi est-ce que je me permets de dire laxiste? Quand on se rend compte... en Chine, on a d'Afrique à Chine, pour les animaux d'annexe 2, entre autres, ou 1, dans les certificats de la CITES, exportateur, importateur, on n'a aucune donnée cohérente. On n'a que 5% des données cohérentes sur plus de 10 ans. On va se retrouver avec des diminutions de quantité. Vous vous rendez compte que quand même, bon, ça peut être compréhensible. Il est vrai que, par exemple, pour les tortues, on peut comprendre qu'il y en ait 1500 qui soient partis du Mali et seulement 600 qui soient arrivés vivantes au Congo. Maintenant, pour des pots de varan, on va peut-être falloir expliquer comment ça se fait qu'il y en a 1000 qui sont partis du Sénégal, mais que 300 qui sont arrivés, qui sont arrivés en Chine, pendant qu'on tenait la Chine. Donc, on a une malgestion qui permet à certains criminels de blanchir de la marchandise. On a des fois seulement 500 animaux qui partent, déclarés à la CITES d'un pays d'Afrique, mais qui arrivaient en Chine, on va en avoir 3 fois plus de déclarés. Et il n'y a aucune vérification et aucune demande d'explication. Ce sont des ponts. Ce sont des ponts criminels.
Et puis par ailleurs, il y a peut-être une chose qu'il faut expliquer aussi aux éditeurs, c'est que pour l'ivoire domestique chinois, il y a des cartes qui sont censées authentifier son origine, sauf qu'en réalité, ces cartes, elles servent parfois pour plusieurs objets. C'est-à-dire que vous arrivez dans un magasin en Chine pour acheter je ne sais quel objet en ivoire, et puis on vous propose un rabais pour garder la carte, ce qui vous permet ensuite de la réutiliser. Je voudrais d'abord faire réagir... Je vous redonne la parole dans un instant, mais je voudrais faire réagir Céline Sissler, parce que vous aussi, vous aviez réalisé un travail sur la CITES et sur les anomalies du commerce encadré par cette convention de Washington, Céline Sissler. Et vous posiez la question suivante. Pourquoi la majorité des rapports dénoncent-ils le commerce légal comme l'une des principales causes de l'extinction des espèces sauvages? Vous avez un début de réponse?
Oui, tout simplement parce que ce commerce légal est d'une ampleur considérable, qu'il est très mal réglementé et qu'il offre une couverture aux trafiquants pour blanchir leurs produits de contrebande. Donc le problème est essentiellement, je pense, une non-réglementation ou un défaut de réglementation de ces marchés.
Comment est-ce qu'on fait pour blanchir justement dans ce domaine-là? Parce que vous faites l'hypothèse effectivement que dans le domaine des trafics des espèces classées dans l'annexe 1 et 2 de la CITES, il y a des mouvements de blanchiment de marchandises permettant, je vous cite, de s'affranchir des risques du blanchiment d'argent plus surveillé.
Oui, tout à l'heure, on parlait justement des sculptures en ivoire que l'on peut acheter en Chine par le biais d'une carte qui est propre à chaque sculpture. Et bien là, la facilité pour les trafiquants, c'est de justement, comme vous le disiez, d'utiliser, en tout cas le vendeur va utiliser plusieurs fois la même carte pour plusieurs sculptures qui vont être identifiées par cette même carte. Et peut-être que la première sculpture provenait d'un stock d'ivoire légal. En revanche, les 5 ou 6 autres après provenaient de stocks illicites.
Alban Lalou, je vous redonne la parole, vous voulez réagir encore?
Alors oui, non, moi la seule chose que je dirais, c'est qu'en effet, en Chine, on a ce problème, et pas seulement avec des cartes qui sont récupérées, mais on a aussi des cartes pour la vente d'ivoire de mammouth, qui est donc autorisée, alors qu'en fait, on a de l'ivoire d'Afrique. Mais la réalité, c'est qu'en France, on ne fait pas beaucoup mieux, parce qu'en France, on s'est aperçu que dans les salles de vente, les objets en ivoire, pour la plupart, n'avaient même pas de certificat. Ils n'ont même pas l'honneur d'avoir un faux certificat. Ce qui est extrêmement grave. Parce qu'en France, on a quand même environ 4 tonnes d'ivoire qui sont écoulées sur les marchés légaux.
Ah oui, ce qui est énorme. Oui.
Ce qui est énorme. En France, tous les ans, on a environ 4 tonnes. Et encore 4 tonnes, c'est une sous-évaluation. Parce que la ISWA, en 2014, avait pris 2 mois au hasard pour faire une recherche scientifique. Elle a trouvé 3,5 tonnes d'ivoire. Le Figaro, Le Figaro, sur les 2 mois suivants, avait eu 2 ventes sur Cannes, on montait à quasiment 4 tonnes. Et là-dedans, on en a beaucoup qui sont des objets en ivoire qui n'ont pas leur certificat. Et ça a été dénoncé.
Céline Sissler, vous voulez réagir?
Je confirme effectivement qu'il y a un vrai problème dans les salles de vente en France. AIFO a fait une étude sur uniquement 2 mois. Des objets qui étaient, enfin de ce qui était proposé dans les salles de vente aux enchères par le biais de plusieurs sites en ligne en tout cas, et on s'est rendu compte que on avait en 2 mois 2 tonnes d'ivoire qui était proposé à la vente, et tout ce qui était ivoire brut était acheté en grande partie par des consommateurs basés en Asie.
Alors justement sur l'Asie, Alban Lalou, alors on disait tout à l'heure que finalement posséder de l'ivoire, c'était un signe d'une certaine manière d'une certaine réussite sociale. Ça permet, comme on dit en Chine, de gagner de la face, c'est l'expression qu'on utilise.
Partout dans le monde, c'est la même chose.
Absolument, partout dans le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, Alban Lalou, et peut-être d'ailleurs pas seulement en Chine, peut-être partout dans le monde aussi, mais le fait que certains Chinois voient dans l'ivoire un véritable investissement. On achète de l'ivoire en pariant sur la disparition des éléphants qui va faire encore exploser, bien sûr, le prix de l'ivoire. Est-ce qu'on n'a pas aussi une démarche totalement spéculative dans tout ça?
Je pense qu'il peut y avoir chez certains très riches une démarche spéculative, mais pas qu'elle soit réellement spéculative. Il faut leur certificat. Les Chinois sont très certificats, ils sont très tampons. Un objet d'ivoire qui ne va pas avoir son certificat ne peut pas être intéressant au niveau spéculatif. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le marché de l'ivoire qui est en train de ravager l'Afrique, ce n'est pas un marché des grandes sculptures, c'est un marché des petits bracelets, c'est un marché des baguettes en ivoire, c'est un marché de choses, du quotidien.
Céline Sisler, sur cette question de la spéculation.
Alors, je pense que même si la population chinoise aime beaucoup les certificats et les tampons, elle a aussi la possibilité de falsifier ces certificats et ces tampons. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différents profils de consommateurs. Il y a le consommateur qui achète l'ivoire sans vraiment savoir ce que cet acte d'achat génère en amont dans les pays de l'aire de répartition de l'éléphant. Mais il y a ceux, effectivement, qui ont bien conscience que leur sculpture en ivoire ou leur produit en ivoire vont prendre de la valeur si l'éléphant disparaît.
Alors, il y a la lutte vraiment contre les trafics, et puis il y a aussi d'autres efforts du côté du gouvernement chinois, notamment des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre précisément à ces citoyens, pour qu'ils y voient, rappelons-le, s'inscrit finalement dans leur culture, dans leur identité, pour leur faire comprendre les conséquences pour les pachydermes. Écoutez.
En achetant de la corne de rhinocéros, vous payez non seulement pour la corne, mais aussi pour les armes, munitions, flèches empoisonnées, tronçonneuses, les haches et les machettes qui servent à fendre le crâne des rhinocéros. Vous financez la mort de magnifiques créatures. Alors s'il vous plaît, dites à votre entourage de ne jamais acheter de corne de rhinocéros. Plus d'achats, plus de massacres.
Voilà, alors cette voix, peut-être que vous l'avez pas reconnue, mais les Chinois la connaissent, c'est celle de Jackie Chan qui a participé donc à cette campagne de sensibilisation. Ça sera ma dernière question, Alban Lalou. Est-ce que ça a de l'effet, ce genre de choses?
Je pense que ça peut avoir de l'effet. En effet, la prévention, bien sûr, a toujours de l'effet, mais il ne faut pas oublier qu'on est face à 20% de la population mondiale. Et vous pouvez avoir autant d'effets que vous voulez sur 20% de la population mondiale. Il suffit qu'il y en ait 0,01% qui ait décidé de consommer, et c'est fini. L'extinction est assuré pour les 10 années à venir.
Céline Sisler.
Oui, je partage.
L'effet très limité.
Voilà, je partage complètement. Alors, l'effet est important, mais je partage cette analyse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la seule clé entre les mains du gouvernement chinois pour mettre un terme au braconnage des éléphants ou au braconnage des rhinocéros, ça va être de fermer les marchés complètement.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Alban Lalou, je rappelle, titulaire de ce master de criminologie et de philosophie chinoise, donc en prévention criminelle à l'Université centrale de police de Taïwan. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
On va poursuivre avec vous, Céline Sisler, et on va retrouver un nouvel invité. Parce que l'Afrique du Sud, c'est aussi un pays qui est particulièrement touché par le braconnage. Ici, ce sont les rhinocéros, 80% de la population africaine, et leurs cornes, réputées thérapeutiques en Asie, on le disait, sont visées. Là aussi, les choses commencent à changer. Pour la première fois l'année dernière, le nombre de rhinocéros tués a légèrement baissé. Enfin, on est quand même à plus de 1000, mais la situation est dramatique. Le parc national Kruger, à l'est, a été la zone la plus touchée. Sa situation à la frontière avec le Zimbabwe favorise bien sûr les braconniers. Le gouvernement a pu prendre un certain nombre de mesures, comme déplacer par camion loin des frontières une partie des populations. Et c'est le cas aussi bien de l'éleveur John Hume, le plus important du pays, avec 1300 têtes environ. Il y a peu d'informations sur sa réserve de près de 8000 hectares, qu'on appelle Buffalo Dream Ranch. On est à l'ouest de Johannesburg, et pour cause, l'éleveur l'a voulu comme un havre de paix pour ses pachydermes. Havre de paix. Et puis zone d'exploitation aussi fructueuse, puisqu'il coupe lui-même la corne de ses animaux pour les mettre à l'abri, les convoite bien sûr, et puis cette pratique plutôt très même controversée. D'autres le soupçonnent d'amasser un véritable trésor. L'Afrique du Sud est en plein débat sur la légalisation du commerce de l'ivoire, dont John Hume est l'un des principaux partisans. Et bien, c'était l'occasion d'en savoir plus justement sur lui et sur sa stratégie, protéger les animaux, spéculer. Écoutez, il est au micro de Xavier Martinet.
Au début des années 2000, j'avais environ 270 à 280 rhinocéros dans la zone côtière du Mpumalanga, dans l'est de l'Afrique du Sud. Et puis en 2006, j'ai eu affaire à mon premier rhinocéros tué par braconnage. Je me suis aperçu combien il était difficile de protéger ces animaux. Bien sûr, le lieu dans le Mpumalanga était magnifique. Il y a des forêts, des voûtes végétales, des chutes d'eau, des rivières, des montagnes. Et franchement, c'est un endroit où un braconnier peut se cacher pendant une semaine sans même que vous sachiez qu'il s'y trouve. Alors c'est à ce moment que j'ai pensé à ce qui arriverait si ce braconnage empirait. Et franchement, c'était assez évident à ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et donc en 2008, j'ai lancé ce projet, ici, dans l'ouest du pays. C'est vraiment un territoire complètement différent à celui d'avant, c'est presque le contraire. Le terrain est plat, laid, il n'y a pas de montagnes, pas de jolies rivières ou d'arbres. C'est laid et désespérément plat. Mais au moins les braconniers ne peuvent plus se cacher.
Et aujourd'hui, alors, quelle est votre situation dans le ranch? J'ai pu lire que 39 rhinocéros ont été abattus par des braconniers l'année dernière.
Oui, c'est ça. En fait, au début, je pensais qu'il serait 40, parce qu'on a déjà eu deux rhinocéros qui sont morts ces trois derniers mois à cause de blessures plus anciennes. Donc c'est toujours un risque. Et nous avons toujours des rhinos gravement blessés, mais nous espérons qu'ils vont se remettre. Et tant qu'à faire, je le précise, je n'ai plus aucun rhinocéros dans l'Mpumalanga. Mon fils occupe bien cette ferme et il s'en occupe comme d'une réserve normale. Mais il n'y a plus de rhinocéros là-bas, ils sont tous ici, dans la province du Nord-Ouest. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet ici en 2008. Et notre premier cas de braconnage n'est arrivé qu'en 2013.
Alors, vous avez délocalisé votre réserve, vous avez aussi investi dans un ensemble de mesures de sécurité, des barrières électrifiées, une sécurité privée aussi. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, votre ranch est bien protégé ?
Non, pas vraiment. En fait, je dirais raisonnablement, mais ce n'est pas assez. Parce que oui, nous faisons face à un braconnage en augmentation constante. Oui, nous avons investi énormément dans les moyens anti-braconnage. Par exemple, des capteurs sur les barrières, un hélicoptère qui vole en permanence, une armée privée permanente. Mais il faut que je renforce vraiment les moyens de haute technologie. En plus, des gardes armés, c'est vraiment un talon d'Achille. Parce que ce sont eux qui peuvent faire passer des informations aux braconniers, et même qui parfois les aident. Donc moi, j'aurai des gens et plus de technologie, mieux ce sera. Il faut des drones, des caméras. Alors bien sûr, c'est très cher, mais au moins, ils fonctionnent toujours comme on s'attend à ce qu'ils fonctionnent. Et si j'arrive à avoir assez de fonds, je pense vraiment que je peux arriver à mettre une sorte de parapluie de sécurité tout autour de ces fermes, ces ranchs et ces morceaux de terre perdus au milieu du Nord-Ouest où nous sommes. De sorte qu'à la fin, plus personne ne pourra y braconner de rhinocéros. Mais je le répète, c'est une opération qui demande beaucoup d'argent et c'est tout le problème.
Et justement, cet argent, puisque vous ne pouvez pas vraiment faire du tourisme dans ce ranch hyper sécurisé et même secret, vous ne pourriez l'avoir qu'en obtenant le droit de commercialiser les cornes de rhinocéros vous-même. Mais là, c'est interdit.
Si vous me demandez ce que je suis, moi, John Hume, je vous répondrai que je suis à la fois un éleveur et un protecteur des rhinocéros. Et l'un des moyens de les protéger, c'est effectivement de leur couper les cornes, parce que ça fait baisser leur valeur pour les braconniers. En fait, il ne reste plus que 30 à 40% de la corne. Ensuite, je pense que ce serait vraiment stupide de ne pas profiter de l'argent des cornes si ça permet de protéger le reste des rhinocéros. Et là, je suis dans une situation où c'est le contraire. Non seulement je n'ai pas le droit de vendre mes cornes, mais en plus je dois investir des sommes considérables moi-même pour des mesures de protection et l'assurance me demande chaque année des montants plus élevés.
Et en ce qui concerne ces opérations de décornage, est-ce que ça a un effet? Est-ce que les braconniers se désintéressent de vos rhinocéros, effectivement?
Je pense que ça marche jusqu'à un certain point. Mais là où ça fonctionnerait le mieux, c'était encore quand nous avons commencé, les premières fois. Parce que maintenant, les braconniers se sont aperçus que les cornes repoussent. Donc ils se disent que s'ils peuvent trouver un rhinocéros dont la corne a été coupée il y a un an, ça vaut toujours le coup de la lui arracher.
Et en ce qui concerne ces opérations de décornage, est-ce que ça a un effet? Est-ce que les braconniers se désintéressent de vos rhinocéros, effectivement?
Ma position, c'est que c'est criminel, c'est stupide et on va continuer à perdre 1000 rhinocéros par an. Et vu la population actuelle de rhinocéros, on ne peut pas se le permettre. Donc cette décision du gouvernement est criminelle et je dirais même plus, il y a des lois qui sont censées être favorables à la protection des animaux, mais elles incitent au contraire au commerce illégal de cornes. Et donc ce sont elles qui sont responsables de la mort des rhinocéros. Je le répète, c'est criminel. Parce que c'est sûr, les braconnages vont continuer. Je suis un peu désespéré de devoir répéter la même chose encore et encore, devoir poser les mêmes questions et obtenir les mêmes réponses.
Et à l'inverse, comment est-ce que vous pouvez être si sûr que légaliser le commerce de cornes ferait effectivement baisser la demande pour le braconnage? Il y a certains éleveurs comme Craig Spencer, plutôt connu près du parc Kruger, qui dit qu'il n'y a pas de preuves. Alors est-ce que c'est juste une hypothèse?
Vous savez, si on laissait, disons, 5 tonnes de cornes de rhinocéros pour le marché vietnamien chaque année, comment est-ce que ça pourrait augmenter le braconnage dans le parc Kruger? Je ne vois pas. Pour moi, c'est parfaitement logique que ça devrait faire baisser le braconnage. Et même, vous savez, l'année dernière, j'ai été en conflit avec le gouvernement. Nous avons été jusqu'au tribunal. J'ai gagné. Eh bien, figurez-vous que c'était la première fois qu'on a vu une légère diminution du braconnage dans le pays. Et ceci parce que les mafias, ou appelez-les comme vous voulez, qui se trouvent au Vietnam, s'attendaient à une légalisation et à une baisse des prix. Donc la demande en cornes illégales a diminué. Donc avec 5 tonnes de cornes de rhinocéros vendues légalement au Vietnam chaque année, je pense que le prix va baisser, et si le prix baisse, il y aura moins de demandes en cornes illégales. Mais attention, il ne faut pas le faire qu'une seule fois. Il faut rendre le système permanent. Nous aurons une meilleure chance en changeant les règles, et en changeant les règles de manière éthique, en légalisant le commerce de cornes de rhinocéros, et en autorisant une cession suffisante de X tonnes de cornes sur le marché chaque année. Ce serait environ 6 ou 7 tonnes, et on pourrait très bien produire cela, sans problème. Alors ne faisons pas la même chose qu'avec les éléphants en détruisant les stocks. C'est stupide. Ça va seulement encourager les propriétaires à spéculer à cause de la rareté. Et les prix vont flamber. Non, c'est pour ça qu'on a besoin d'une quantité permanente à mettre sur le marché chaque année. 6, 7, peut-être 8 tonnes.
Et vous-même, justement, vous en possédez déjà 5 tonnes de cornes de rhinocéros. Vous en récoltez une tonne chaque année environ. Alors, ce serait surtout une bonne affaire pour les propriétaires privés, la légalisation. Est-ce que c'est vraiment la seule manière de sauver les rhinocéros de l'extinction ?
C'est sûr qu'il n'y aura pas de solution miracle. Il y aura toujours des gens qui voudront tuer mes rhinocéros. Mais si vous pouvez vendre ces cornes, et n'oubliez pas qu'elles repoussent, qu'on les enlève en 20 minutes à peu près, sans douleur, alors pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'argent pour servir à leur protection ? Au moins, on aurait de quoi les défendre. Voilà ce que je donne comme réponse.
Et donc, en prévision d'une ouverture possible du marché passé ou à l'avenir, est-ce que vous avez déjà été en contact avec des clients asiatiques potentiels ?
Oui, j'ai négocié avec tout le monde et je peux dire une chose, c'est évident que le prix qu'ils donneraient pour une telle corne serait bien moindre que tout ce que les médias ont pu avancer.
John Hume, donc le plus grand éleveur de rhinocéros d'Afrique du Sud, au micro de Xavier Martinez. Hélène Sisler, peut-être un mot sur son hypothèse. Le meilleur moyen finalement de protéger les pachydermes, on leur coupe les cornes, on leur coupe les défenses et puis on autorise le commerce d'ivoire.
Alors ça c'est une hypothèse et le retour d'expérience que nous avons sur les éléphants nous montre que la légalisation d'un commerce international renforce le braconnage, stimule le braconnage. Donc clairement pour les rhinocéros, nous ne partageons pas du tout cette analyse. Nous savons que si l'on ouvre à nouveau le commerce international de la corne de rhinocéros, on va faciliter le travail des trafiquants puisque ça offrira une couverture pour blanchir les cornes illégales. Ensuite, certes, on va baisser les coûts de la corne de rhinocéros, mais on va aussi sans doute contribuer à baisser les coûts de distribution pour les trafiquants ou les coûts d'approvisionnement. Donc pour eux, ça sera évidemment bénéfique. Ensuite, on va réduire les risques qu'ils prendront avec l'existence d'un marché légal. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, les politiques ont été de stigmatiser la consommation des produits dérivés d'espèces sauvages et que là, d'un seul coup, on va banaliser, donc avec le risque d'attirer de nouveaux consommateurs.
Merci beaucoup, voilà, pour votre réponse, Hélène Sisler. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle, vous êtes la directrice France de l'IFAO et on peut bien sûr retrouver notre échange, l'émission du jour, sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un instant, sur France Culture, justement, c'est la grande table avec Raphaël Bourgois aujourd'hui, mais juste avant, la vie moderne. Très belle journée et à demain.